Lundi 8 septembre 1997, cours de Raveman, Shir HaShirim, centre du Frénois.
Verset 5 du chapitre 4. Le verset dit ceci. Ici, il s'agit comme le verset qu'on avait vu avant, que Midial David Savarer Bano le Talpio, Telefamagen, Talo, El Al Kolchite, Agibori. C'est Dieu qui s'adresse au peuple juif. Shne Shadair ki Shne Ofarim, Teomet Sviya, Harim Bashoshem. Alors, avant, on parlait du coup. Maintenant, Shne Shadair, c'est la poitrine. Kishne Ofarim Teomet Zvia, comme deux fans, jument de la biche. Haroim Bashoshanim, Haroim Otamor, que l'on fait paître, Bashoshanim parmi les roses. C'est comme ça que Dieu s'adresserait au peuple d'Israël. Alors Rashi donne deux traductions. Il dit, il est possible qu'on parle ici de Moshe et de Aaron. C'est-à-dire que le début du peuple juif, ça n'était pas une seule personne, Moshe, qui a fait sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, d'Égypte, mais ils étaient de Moshe et Aaron. Et vous savez que dans le verset, quelquefois il est écrit Aaron ou Moshe, quelquefois il est écrit Moshe et Aaron. Ça veut dire que l'un n'a pas joué un rôle plus grand que l'autre, bien que celui qui s'est adressé à Pharaon, ce soit Moshe Rabbeinu. La faculté corrèle ces deux Moshe et Aaron, ça veut dire qui peut exister dans le peuple juif un pouvoir qui soit partagé sans que cela donne des conflits. Vous savez qu'il existe dans le peuple juif quatre pouvoirs. Ces quatre pouvoirs, on a lu dans la paracha de la semaine dernière. Le premier, c'est Shoftim. C'est-à-dire que le juge qui est en même temps pouvoir législatif et pouvoir exécutif. C'est ça qui est écrit Shoftim et Shoftim titel rabechol shorecha. Rachid, il amène la Gemara que dans chaque ville, on est obligé de nommer un bédine de trois. Dans les villes importantes, un bédine de 23. Et à Yerushalayim, ce qu'on appelle le bédine Agadol, un bédine de 71. Chaque bédine a des attributions, des choses qu'il a le droit de juger, des choses qu'il n'a pas le droit de juger. À part le bédine Agadol, le grand bédine qu'on appelle le Sanhedrin, qui lui a le droit de juger tout. Ça, c'est le premier pouvoir. Le deuxième pouvoir, c'est le Meler. C'est le roi. Le roi a un pouvoir exécutif troisième, c'est le Kohen, c'est le pouvoir sacerdotal. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Kohen pour pouvoir servir au temple. Kohen, après partager à moitié avec Lévi, puisque le Kohen vient de la tribu de Lévi. Et le quatrième pouvoir, c'est ce qu'on appelle le Navi, le prophète. Le prophète, c'est celui qui ordonne la conduite générale au peuple et qui est chargé, moralement ou spirituellement, de faire respecter la loi, ou en tout cas de faire régner l'esprit de la Torah sur le peuple juif. Ces quatre pouvoirs, qui est le premier, le Meler, le Shofet, le Kohen et le Navi, les Chachamim nous disent que leurs initiales, cela fait le mot Mishkan. Ça veut dire que c'est la condition de la résidence de ce qu'on appelle la Shrina dans le peuple juif. Ces quatre pouvoirs étaient partagés par Moshe et Aaron. Parce que vous savez que Moshe a réuni 70 Kenim, les premiers 70 auxquels il a enseigné la Torah, et qu'ils ont formé le Bedin Agadol, le grand Bedin, qui doit avoir 71 membres. En même temps, Moshe Rabbeinu avait le pouvoir du Meler, puisque c'est lui qui conduisait le peuple. Et en même temps, il avait le pouvoir du Navi, le prophète, puisque la Torah se termine en disant « Lokam b'Israël, que Moshe od Navi, on n'a jamais encore vu un prophète comme Moshe Rabbeinu. » Et le pouvoir sacerdotal, le Kohen, c'était Aaron. Si on essaye de comprendre ou de s'interroger un peu sur ces pouvoirs-là, puisque c'est la première interprétation de Rashi, ce qu'il s'agit ici de Moshe et Aaron, c'est-à-dire le pouvoir, on doit noter qu'il y a des choses bizarres en ce qui concerne le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le Melech, le roi, a un pouvoir exécutif, seulement le Bédin aussi. Et le Bédin a en même temps le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parlement, puisque la loi est enseignée dans la Torah, et qu'il s'agit pour le Bédin d'interpréter la loi. À partir du moment où ils l'interprètent, ils en sont responsables aussi. C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas de différence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Non seulement ça, mais l'enseignement de la Torah passe par le Sanhédrin lui-même, puisque les élèves étaient assis devant le Sanhédrin. Et lorsqu'il n'y avait pas d'affaire à juger, le Sanhédrin était l'instrument de la transmission de la loi en termes de pouvoir, on dirait aujourd'hui le pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'on décidait à la majorité de quelle était la halakha. Ça, ce serait la société idéale d'après la Torah. Il y a bien sûr des choses que l'on ne peut pas décider dans le Bédin parce qu'elles n'ont pas trait à la halakha. Ça, c'est le pouvoir du Meler. C'est le pouvoir de la royauté. Ça, on va garder la première interprétation, c'est celle de Rashi, c'est la première. Il y a une deuxième, où on lirait Shene Shada Yirkishne Ofarim. C'est les deux tables de la loi. Pourquoi ? Parce que Rashi nous dit ici, la source est dans le Midrash, que les tables de la loi se divisent en deux, les 10 commandements, se divisent en deux, puisque tout le monde sait que les premiers commandements, les 5 premiers, c'est l'homme vis-à-vis de Dieu, et les seconds, c'est l'homme vis-à-vis de l'homme. Saint Rashi nous dit qu'il y a une correspondance entre le premier et le sixième, le deuxième et le septième, le troisième et le huitième, le quatrième et le neuvième, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est écrit que Shnei Ofarim Teomet Tseviya, ils sont jumeaux. Pourquoi ? Parce que, en ce qui concerne les commandements, on a exactement le commandement qui est dans les tables, qui sont les tables de Ben Adam la Chaver ou de l'homme envers son prochain, et qui correspondent exactement. Pourquoi ? Vous savez, on a déjà parlé de ça. La Torah fonde la morale sur la métaphysique. La morale, ce n'est pas un consensus. Il y a des lois qui peuvent changer. Ce sont des lois qui doivent gérer la société et qui sont fondées sur la métaphysique. Rashi dit, le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, d'avoir un Dieu unique et de penser que c'est lui qui régit toutes choses. C'est la correspondance exacte du sixième commandement qui est situé à la même hauteur dans les deuxièmes tables. Ce sixième commandement, tout le monde le connaît, c'est une tuerie à point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tuer l'homme, tuer Dieu, c'est la même chose. Anochi Hashem Elokecha, c'est le fait que toute chose a été créée par Dieu et qu'il y a des choses dans la création qui ne sont pas en mon pouvoir et que je n'ai pas le droit de faire. C'est pour ça la Gemara dit dans Sanhedrin, tout celui qui tue un homme, ou me ma'et et ademout, me ma'et et ademout notamment, ça veut dire qu'il rend plus petite l'image de Dieu. Il rend plus petite l'image de Dieu à divers niveaux, puisque le monde entier, donc par l'intermédiaire de ces individus, est ce qu'on appelle en hébreu un guilouille, c'est la révélation de la volonté divine. À partir du moment où j'en supprime un, je supprime une exigence divine. Ce qu'on appelle le Ratzon Hashem, la volonté divine. Donc le premier commandement de tu ne tueras pas ne peut exister dans les deuxièmes luchot, dans les deuxièmes tables, qu'à partir du moment où j'ai un premier commandement, Anochi Hashem Elokecha. Si je n'ai pas ce premier commandement, le deuxième, on ne peut pas exiger. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de tuer. Si je n'arrive pas à me fonder sur le premier commandement, qui est Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi ? Parce que même si j'arrive à fonder cette morale sur des idées ou sur un consensus, on pourrait arriver au fil des ans ou au fil des époques à un autre consensus. C'est-à-dire que il y a des moments où la morale change, où la conscience change, et on peut arriver à ce que ce qui était interdit hier soit permis aujourd'hui, et le contraire. Le deuxième commandement, Lo yelcha Elohim acherim al panaim, de ne pas avoir d'autres dieux, c'est-à-dire de ne pas baser sa vie sur des idées ou sur des valeurs qui ne sont pas les exigences divines, ce qu'on appelle les intermédiaires, Avodah Zara, le culte étranger. C'est en parallèle au septième commandement. Le septième commandement, c'est l'adultère. L'adultère dans la Torah, c'est le pouvoir d'être engagé et de ne pas respecter cet engagement. Lo yelcha Elohim acherim al panaï, c'est l'engagement du Anochi Hashem Elokecha. Si Anochi Hashem Elokecha, si c'est vrai que Dieu a créé le ciel et la terre, et que c'est lui qui régit toutes choses, il est donc impossible que tu aies d'autres références et que tes actes se basent sur des valeurs qui ne sont pas celles régies par Dieu dans la nature. Donc, c'est que tu manques à l'engagement. Le manque à l'engagement, c'est ce que la Torah dit l'otinaf, c'est l'adultère. Troisième commandement, ce qu'on appelle Shuat Shav, Shuat Sheker, c'est le fait d'invoquer le nom de Dieu pour des serments, le fait de se parer de l'accord divin pour faire ce que l'on veut faire. Ça, c'est en relation avec le huitième commandement. Quel est le huitième commandement ? Ah bon ? C'est sûr ? Hein ? Il a raison. Lotignov. Lotignov. C'est qu'il y a deux façons de voler. On peut voler le date de quelqu'un, c'est-à-dire on peut voler la raison ou l'intellect de l'autre. Lorsque quelqu'un jure, lorsque quelqu'un affirme, c'est qu'il veut que l'autre le croie. C'est-à-dire qu'il veut s'emparer de la raison de l'autre. S'emparer de la raison de l'autre, ou s'emparer des affaires des autres, c'est exactement de la même nature. Le neuvième commandement et le quatrième commandement. Le quatrième commandement, c'est Shabbat. Quel est le neuvième commandement ? Il a dit l'autre avant. Hein ? L'otan ibreach et chacun. Ne pas porter de faux témoignages. C'est que le Shabbat, c'est pour nous le signe de la création. Justement, le témoignage que le divin a donné un jour, qui doit être en quelque sorte le but de la création, ce qu'on appelle Mehen Olam Haba, la quintessence du monde futur. L'Otan et Bereach et Shaker portait un faux témoignage. Ça veut dire de pouvoir utiliser le mensonge, de pouvoir, on va dire même pire que ça, utiliser toute la machine du dîn. Parce que lorsque je me pointe au tribunal et que je porte un faux témoignage, j'utilise une machine légale. J'utilise un pouvoir qui est légal. Lorsque je me sers du monde et que je ne lui donne pas sa vraie dimension, c'est la raison pour laquelle l'histoire de Bereshit est écrite dans la Torah, qui est celle du Shabbat, c'est que je cache une partie de la réalité. Le dixième commandement, c'est le Tahmod, de ne pas convoiter, et c'est le matériel du Kaved et Avicha et Imecha. On doit savoir sa place et on doit avoir une place dans l'affectivité et on doit avoir une place dans la matérialité. L'otachmod, c'est de vouloir être à la place de l'autre dans la possession. Kabel et avicha ve imecha, c'est de pouvoir avoir une place selon où l'exemple qui est celui de la famille, ou selon un héritage qui passerait par les parents. C'est qu'on a déjà dit que même les mitzvot qui ont l'air de mishpatim, qui ont l'air de choses compréhensibles, ce n'est pas évident, puisque le fait d'honorer les parents, ce n'est pas simplement avoir du respect pour eux parce qu'on leur doit la vie ici. Parce que vous savez que la Torah ne demande pas de respecter les grands-parents. Elle ne demande que de respecter les parents. si c'était en tant qu'Hakarat HaTov, c'est-à-dire le fait que je doive quelque chose, donc moi et mon père, on doit respecter le grand-père. Donc le respect au grand-père doit être plus grand que le respect au père. C'est une des preuves qui est écrite dans le Midrash Talpiot, que les Mishpatim de la Torah, même les commandements, qui ont l'air tout à fait compréhensibles, en vérité il s'agit de Chukim. Il y a dedans une dimension qui n'est pas accessible, parce que le fait d'honorer ses parents, c'est pas simplement d'honorer parce que on est là grâce à eux, puisque sinon on devrait honorer les grands-parents plus que les parents. Le fait d'honorer les grands-parents, c'est une obligation midrabanan instituée par les Chachamim. Ça n'est pas une obligation de la Torah. On leur doit rien, cela. Donc, le fait d'avoir une place quelque part, c'est ce qui me permet. Il y a une hiérarchie quelque part. Je ne suis pas le premier, je n'ai pas tout. Il y a des gens qui passent avant moi. La même chose, l'autre Ahmad, je ne peux pas tout avoir. Il y a des gens qui auraient moi, je n'ai pas. On doit pouvoir se situer dans la place qui nous a été donnée. Tu as peut-être une place de père quelque part, mais tu as aussi une place de fils quelque part. Là aussi, tu possèdes peut-être quelque chose, mais des choses que tu ne possèdes pas. On est obligé de se situer, et que ce soit dans le matériel, et que ce soit dans le domaine familial, ou même plus spirituel. Tout ça, ce ne serait pas tellement intéressant si ça ne donnait pas une dimension à ce qu'on appelle les mishpatim, les commandements qui gèrent la société, qui est une dimension différente de celle qu'on croit habituellement. À partir du moment où je dis le premier et le sixième, le deuxième et le septième, le troisième et le huitième, et qu'il y a une correspondance entre les deux, c'est donc comment que la justification du second n'est donnée que par le premier, mais que les deux vont ensemble. Le fait que les deux aillent ensemble, ce qui est marqué ici, Toa Metzvia, c'est ce qui permet la fin du verset. Puisque la fin du verset, Aroé Bashoshanim, s'il s'agit de Moshe Aaron, c'est compréhensible, Aroé Bashoshanim, ça veut dire que le peuple juif, on lui a donné une loi par l'intermédiaire de Moshe Aaron, et que cette loi, elle est Bashoshanim. Vous savez que le responsable de la loi dans la Torah, c'est l'homme, et ça n'est pas la société. À la grande différence de toutes les législations passées, actuelles ou à venir, lorsqu'on veut légiférer, on s'adresse à la société, qui elle, et c'est ça l'exécutif, est chargée de gérer l'individu. Mais on n'a pas trouvé de loi dont la responsabilité est individuelle. Comme si je dirais à quelqu'un, voilà, tu prends le code Napoléon, tu prends le code, je ne sais pas, toutes les lois qui ont été inventées par les hommes, mais tu n'es responsable que devant Dieu. Tu n'es responsable que devant toi-même. La plupart des halakhot de la Torah, je ne suis responsable que devant moi-même. C'est ce qu'on appelle Aroé Bashoshanim. Roé Bashoshanim, ça veut dire qu'on a mis des barrières, on a mis des limites. La Torah, elle est entièrement barrière, elle est entièrement limite. Mais c'est des barrières de rose. C'est des barrières faciles à franchir et agréables à franchir. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui viendra et qui me jettera la pierre. La prison, ce n'est pas une institution de la Torah. Le Sanhédrin a un pouvoir exécutif. Mais il n'est pas obligé de mener des enquêtes pour aller chercher les criminels. Ça, ce sont déjà des obligations, hein, ou Midrabanan, les Chachamim, ou des institutions du roi. Mais dans la législation de la Torah, ça n'a pas cours. Les impôts, je ne les paye pas, j'ai une affaire. Ce n'est pas la société qui viendra me les réclamer. À partir de ce moment-là, on a une autre dimension de la correspondance entre les premières tables et les deuxièmes tables. La correspondance, elle est que les deuxièmes toiles doivent pouvoir régénérer. doit pouvoir motiver un homme à arriver aux premières tables, comme les premières tables doivent motiver et générer chez l'homme le fait d'arriver aux deuxièmes tables. Ça, c'est quelque chose qui est non seulement exceptionnel dans la Torah, mais où on va arriver à une idée qui est encore plus difficile à comprendre, mais qu'on est obligé d'admettre dans la Torah. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les philosophies orientales, avec la philosophie chrétienne qui est très influencée par toutes ces philosophies orientales, on vous décrit un Dieu, on dit que c'est le Dieu de l'amour, c'est un Dieu un peu spinozien, c'est-à-dire qu'on vous dit, mais Dieu, il est en nous, il est tout, il est nous, il est... Et on vous décrit une vie très facile. Et où il n'y aura jamais de bagarre entre Dieu et les hommes, puisque Dieu c'est l'homme et l'homme c'est Dieu. La limite entre les deux, elle devient de plus en plus floue. Puisque Dieu n'est qu'amour, même s'il me reproche quelque chose, mais il est de mon côté. Donc puisqu'il est de mon côté, je n'ai pas à craindre de lui. Il y a une nouvelle tendance qui est un petit peu de s'attaquer à ce que les philosophes appellent aujourd'hui le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux, c'est celui qui est méchant, celui qui a une loi, celui qui a une règle, celui qui vous tape dessus. Ça ne veut pas dire que pour eux c'est plus facile à comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on vous dit que le bon Dieu qui vous tape dessus et qui tolère toutes les catastrophes, il n'est qu'amour, c'est aussi difficile à comprendre. Mais il y a une chose où on doit être clair, où la Torah est claire. Il ne peut pas exister de relation entre l'homme et Dieu qui ne passe pas par la loi. Parce que si ça ne passe pas par la loi, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Si tout ce que je fais, Dieu qui est plein de mansuétude me comprend et se met à ma place, et on vous dira aujourd'hui, il se met plus qu'à votre place, il sait même comment vous allez réagir demain, donc il ne vous en veut pas. Il est petit comme vous, il est grand comme vous. C'est-à-dire que les mots n'auront plus de sens. À partir de ce moment-là, les valeurs n'existent plus. La Torah, si elle fonde la morale, si elle fonde une société sur des mitzvot, c'est les premières tables et les deuxièmes tables, on est obligé de dire qu'il n'existe aucun type de relation. Parce qu'il s'agit d'une relation entre Dieu et l'homme. Il ne s'agit pas de dire que Dieu existe dans l'homme et l'homme existe dans Dieu. Ce sont des mots. Il existe une relation. Et c'est une relation de deux types indépendants. Puisqu'en hébreu, le mot chaim veut dire indépendance. La vie, c'est l'indépendance. C'est le fait de s'assumer, de rendre des comptes. Le rapport est obligé de passer par la loi. Il ne peut pas exister de rapport sans loi. Ah, c'est vrai, il y a Milatadin, il y a Milatarachamim. Il y a la loi qui est appliquée plus sévèrement et la loi qui est appliquée moins sévèrement. Mais il s'agira toujours d'une loi. Pourquoi ? Parce que n'importe quel rapport doit être la suite d'une législation. On ne peut pas définir des rapports sans légiférer. Donc, on va vous dire, oui, c'est le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, le Dieu vengeur, le Dieu ceci, le Dieu méchant. On va dire pire que ça. La vie ne peut se concevoir au niveau de la Torah sans la notion de responsabilité. Et la notion de responsabilité, c'est une notion qui sépare Dieu et l'homme. Parce qu'il n'est pas toujours responsable. Et il n'est pas responsable à concurrence de ce que moi je suis responsable. Donc de dire qu'on a affaire à un Dieu d'amour, un Dieu qui est tout, un Dieu qui est en nous, c'est introduire la notion de déresponsabilisation. Ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, on peut aller au-delà de la loi. Mais au-delà de la loi, c'est aussi une façon de légiférer. Parce qu'il y a le quand on va au-delà de la loi et le quand on va par au-delà. Ça, c'est ce qu'on doit pouvoir comprendre. Et c'est ça le sens à Roé Bachochani. Vous savez que le judaïsme a été attaqué facilement en disant qu'on enfermait l'homme dans des lois. Ces lois avaient des barrières, encore d'autres barrières. Ici, ces barrières, les chachamim les définissent comme haroé bashoshanim. Paître parmi les roses. C'est-à-dire que les barrières, ce sont des barrières que l'homme lui-même place. Parce que ce sont ses repères. C'est vrai que la rose a des épines. Mais elle a un parfum. Je peux, moi, placer une barrière. Parce qu'à partir du moment où je sais où me situer par rapport à la loi. On va donner un exemple simple. Si l'interdiction de manger de la viande cuite ou mélangée avec du lait était appliquée selon la Torah, elle ne serait plus appliquée dans le peuple juif. Le fait d'avoir deux vaisselles, deux éviers, d'avoir un temps différent pour manger le lait et la viande, c'est ce qui permet de respecter cette mitzvah-là. Et là où ça n'a pas été fait, là où on n'a pas réussi à trouver une façon de vivre qui comporte ces barrières, qui sont ces barrières de rose qui sont marquées ici à Roé Bachochanim, la même chose Ilchot Nida. Il y a une façon pour un homme et une femme de se conduire dans certaines périodes de la vie où les barrières sont extrêmes. Mais qui c'est qui met les barrières? Il n'y a personne pour vérifier. Et il n'y a personne pour donner des notes. C'est pour ça qu'on les appelle Haroé Bachochanim. Ce sont des barrières de rose. À l'accusation de dire qu'on n'en peut plus avec toutes ces barrières, elle est très simple. Si tu n'en peux plus, ben tu ne le fais pas. Mais ce n'est pas parce que tu n'en peux plus que le peuple juif ne peut pas exister. Parce que peut-être d'autres peuvent. Et tu n'es pas obligé d'y arriver du premier coup. Et ce n'est pas universel. C'est pour ça qu'on est toujours petit. Qui atem amehat mikol ha'amim. Comment le bon Dieu, il nous a donné une telle kala de nous dire au présent dans la Torah qu'on est les plus petits. Laisse-nous l'espoir un jour devenir grand. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 60-70% qui s'en vont. C'est ça le sens de Roé Bachochanim. C'est qu'il y a des barrières. Les barrières sont extrêmes. Mais à partir du moment où c'est moi qui sais me les mettre, ça devient des repères et elles n'existent plus en tant que barrière. C'est vrai que si tu vas te piquer. Mais comme c'est toi qui as mis la barrière, alors tu ne vois plus que les roses. Les enfants ne comprennent pas pourquoi on plante des roses chez soi. Qu'est-ce que tu as besoin de te piquer? Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Tu ne peux pas trouver quelque chose où tu piques pas. Mais l'adulte a pris l'habitude de ne plus se piquer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a plantées. Il sait où elles sont, il sait comment elles sont. Et il sait comment fonctionner avec elles. Alors c'est vrai qu'il y a la piqûre. Mais on sait comment tenir compte de la rose sans la piqûre. Un enfant, il ne sait pas. L'attitude qu'on demande au peuple juif, c'est une attitude d'adulte. C'est pour ça que les premières tables sont les deuxièmes et les deuxièmes sont les premières. Elles n'ont pas de sens. Mais c'est vrai que mon rapport avec Dieu, c'est un rapport de loi. Pire que ça, c'est un rapport de repère. Je dois savoir ce qu'il me veut. Je dois savoir quand est-ce que je suis dans le bien et dans le mal. Et je dois savoir quand une action est positive ou négative. Parce que sinon, je n'ai pas de repère. Alors de dire que Dieu est tout amour et que pour lui, le fait de transgresser ou non, ça ne veut rien dire. Et que ça n'est pas quelque chose qui a de l'importance dans mon rapport d'amour avec Dieu, ça veut seulement dire que je n'en ai pas de rapport. Parce que je ne sais pas où me situer par rapport à sa volonté. Et ça veut donc dire encore qu'il n'a pas de volonté. Donc ça réduit son intervention à des questions. Et chaque fois que le bon Dieu est intervenu, on a toujours des questions. Parce qu'on se doute bien que c'est lui qui intervient. Et on a des questions. Ça veut pas dire que nous avons les réponses. Mais au moins nous pouvons vivre, nous, avec des questions. Parce que dans mes rapports avec lui, je ne suis pas censé savoir toujours comment lui se comporte. Mais comment moi je me comporte, ça je suis censé savoir. Donc moi je dois savoir, pour pouvoir évoluer, quelle est la grille qui me permet de me situer. Et pour ça, je suis obligé d'avoir le rapport à la loi qui fait mon rapport avec Dieu. Sinon, je n'ai pas de possibilité. C'est pour ça que vous allez voir tout de suite la suite. Mot à mot, jusqu'à ce que le souffle du jour s'en aille, on a déjà vu presque le même verset, venasu atzlalim, et que s'en aillent les ombres, c'est-à-dire que le soleil se couche, elechli el haramor, velgivat alovona. Dieu s'adresse au clan d'Israël, mais lui dit attention, atchiafouachayam venasu atzlalim. Le rapport entre Dieu et l'homme est idyllique, jusqu'à ce que le jour, c'est le jour du 6 Sivan au Sinaï, où le peuple juif va rentrer avec Dieu dans un rapport qui n'est pas celui du révélateur avec celui pour lequel la loi a été révélée, mais un rapport de vie. Et à partir du moment où on introduit un rapport de vie, on introduit l'épreuve, où on introduit la difficulté, on introduit la conduite, et à partir de ce moment-là, il y a foi, rayom, venasuat, slalim, elechli, Dieu dit, je m'en vais, el haramor, velgivat alvona, tout le monde sait qui c'est le haramor, c'est le haramoria, c'est vers la colline du temple, velgivat alvona, levona, c'était l'encens qu'on amenait au Betamidash, c'est-à-dire que Dieu, on peut percevoir la Shrina dans le Beth Amidash, dans un sanctuaire. Le divin, maintenant, il est à créer dans la vie. C'est comme si le bon Dieu nous disait, voilà, on t'a mis dans des conditions idéales. Mais tout ça, c'est bien beau, mais un jour, il va falloir fonctionner. Et le jour où il va falloir fonctionner, le bon Dieu sera relégué au Beth Amidash. Et toute la Avoda, le travail de l'homme, c'est de l'introduire dans la vie. C'est pour ça qu'à la fin, prenez le verset d'après, Rashi, ça fait partie du même verset. Kulach yafa rayati umumemba. Kulach yafa rayati. Tu es entièrement belle. Umum et mum. Un défaut. Enba. Il n'y en a pas en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash dit Kulach yafa rayati. On t'a donné les éléments, tu as en toi tout pour être Yafa. Moum, on ne t'a pas donné d'impossibilité. Moum, c'est celui qui ne peut pas marcher. Alors, ce n'est pas la peine de lui dire qu'on va l'inscrire à la course, puisque on ne lui donne pas les éléments. Koulak Yafa Rayati, le peuple juif a tout ce qu'il lui faut. Il ne lui manque rien au Moum en Bar, tu as tout pour réussir. Ça, on en arrive au problème de ce qu'on appelle le problème du péché. C'est-à-dire que ce jour-là, Tchiafoua Hayom, le juge du Sissivan, il a une fin et que le soir arrive et maintenant il va falloir se débrouiller. C'est là où on introduit inéluctablement la notion de faute. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a notion de travail, où il y a notion d'épreuve, où il y a notion de ce qu'on appelle en hébreu la madriga, il est obligatoire d'abord qu'on ne réussisse pas tous les premiers coups, et ensuite, puisqu'on est libre, et que cette liberté génère chez nous des tendances qui sont antinomiques, et que je ne dois pas tout réussir du premier coup, on est obligé d'arriver dans une notion de faute. savez que toute notion de valeur est obligée, à partir du moment où on juge les choses, où on donne une valeur aux choses, on est obligé de rentrer dans la notion de faute. C'est très désagréable de parler toujours de faute. Ça veut dire que souvent on en a assez, on n'est pas à la dictée, on vous dit, voilà, tu as fait tant et tant de fautes, tu as fait tant et tant de fautes. Mais il en reste qu'un objectif, lorsqu'on ne peut pas le ramener, et dont on n'a pas l'illusion qu'il soit accessible du premier coup, génère en lui-même le fait d'avoir un objectif, génère en lui-même la notion de faute. Maintenant, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon chrétienne de le voir, c'est-à-dire, c'est inéluctable, c'est originel, à la fin, on n'est pas coupable, on en a assez de payer pour ça. Voilà peut-être une autre notion. On a déjà dit que dans le Midrash, il est écrit que le sixième jour, lorsque Adam a été créé, Dieu a dit « Ve'ine tov me'od ». Tous les autres jours, il a dit « Ve'ine tov ». Ce qui a été créé est bon. Lorsque l'homme a été créé, il a dit « Tov me'od ». Très bon. Demande le Midrash, que veut dire très bon ? Répondent les Chachamim, Tov me'od, Zay Yetzerara. C'est le Yetzerara. Ou alors Tov me'od, Zay Yom Amita. Yom Amita, c'est-à-dire le jour de la mort. Comme d'habitude, les deux notions sont des notions complémentaires. Le Yetzerara et la mort, ce sont les deux seules choses qui donnent de la valeur à notre vie. Si je n'avais pas d'échéance, il ne pourrait pas y avoir de sanctions non plus. En tout cas, les sanctions n'auraient pas de valeur et l'échec n'aurait pas de valeur. Si on dit à quelqu'un tu es éternel, bon, on peut lui pourrir la vie éternelle. Bon. Mais on ne peut pas plus. Yom Amita, ça veut dire que puisqu'il y a un temps, c'est qu'il y a une réalisation qui est demandée dans ce temps-là. Parce que si on ne te demandait rien, on te laisserait tout le temps pour rien. C'est seulement lorsqu'on demande quelque chose qu'on demande aussi un temps pour le réaliser. À partir du moment où il existe Yom Amita, ça s'appelle Tov Me'od. C'est que il y a quelque chose qui peut aller en grandissant. Parce que le mot Me'od en hébreu veut dire beaucoup, très, très bon. Quelqu'un qui peut aller plus loin, me'od, encore. Ça veut dire que la notion de grandeur de l'homme est liée à la notion du temps. La deuxième notion, c'est le Yetzara. C'est-à-dire que j'ai des tendances qui vont à l'inverse de la vie. Et ça, c'est au monde. Parce que si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas grandir. Je serais un être naturellement bon. Donc, je n'aurais rien à créer. Alors que je suis censé créer un être nouveau, c'est ça, Chaim, indépendant, qui ait différentes tendances et qui se définisse parmi ces deux tendances, à l'intérieur de ces deux tendances. À partir du moment où tu as choisi, ou à partir du moment où tu travailles dans un sens, tu te définis. Et on a besoin de cette définition parce que c'est ça la chayout, c'est ça l'indépendance, c'est ça la vie. Qui es-tu ? C'est que Dieu a le droit de poser une question à l'homme et de savoir qui il est. À partir du moment où on lui donne ce Yitzhara, et qu'il a la possibilité du choix, il a donc la possibilité de la définition, il a donc la possibilité d'être, parce que s'il n'y avait que de Tov, il ne serait rien. Lui, il serait confondu au Tov. Mais lorsqu'il y a le temps et le rat, on est obligé d'être. À moins qu'on dise qu'on ne demande rien et qu'un jour on est homme et le jour on est rat. Ça veut dire que rien n'a de sens. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Chachamim voit que le sixième jour il est écrit Me'od, on vous dit qu'il y a deux possibilités. Me'od, c'est ou le Yom Amita, c'est une restriction dans le temps, ou alors c'est une restriction dans la personne. C'est le rat. Si je n'ai pas ces deux restrictions, je n'ai pas de possibilité d'exister en tant qu'être indépendant. Je ne suis que le résultat du temps, ou je ne suis que le résultat de cette vie éternelle qu'on me fait mener. À partir du moment où j'ai une échéance, c'est que j'ai une sanction. C'est que j'ai un moment où on va relever exactement pour savoir où es-tu arrivé. Sinon, le temps n'aurait pas d'importance. C'est-à-dire que je ne peux rendre quelqu'un d'indépendant que si je lui donne une échelle de valeur et si je lui donne un temps défini. Par rapport à ce temps et à cette échelle, je pourrais savoir qui il est. C'est pour ça que le but de la création de l'homme, c'est que l'homme se construise et qu'on sache un jour qui tu es. Ça, c'est le but. À partir de ce moment-là, de nouveau, on a toujours ce même inconvénient de dire entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la mode d'en parler, mais c'est la notion de la faute, la notion de l'erreur. Vous savez que, comme on est au début des Louls, on peut quand même en parler parce que c'est ça le sens ici. Le Beit Hamikdash, il s'appelle Har HaMoriah Givat HaLevona. Pourquoi ? Parce que le Har HaMoriah, c'est là où on faisait les sacrifices, qui est une kapara pour le clan d'Israël. Le sens de la tshuva, ou le sens de ce qu'on appelle le pardon. La tshuva, c'est une invention qui rend service à tout le monde. Pourquoi ? Parce que un jour, je ne me reconnais plus tel que je suis. Je dis, je fais tchouva. Et puis, si on en croit les textes, en tout cas, comme ça dit le prophète du Cheskel, En mazkirim lo shum davar miricho, comme ça dit le Rambam, mon amant reversé, celui qui a fait tchouva, même à la fin de sa vie, on n'en parle plus. Ça y est, ça dit. Mais on va essayer d'en définir un peu les contours. Quel est le principal de la tchouva ? Il y a deux choses. Il y a le fait de commencer une nouvelle vie, de commencer un nouveau circuit. C'est une partie de la tchouva. Ça s'appelle dans le langage des Chachamim Kabbalah Latid. La Kabbalah en prend sur soi. Ça s'appelle Azivat Achet, de ne plus commettre telle ou telle erreur. Mais encore une autre notion chez les Chachamim. Cette notion, elle est marquée dans Emunot Vedeot, le livre Rabbi Sadia Gaon. C'est ce qu'on appelle la Charata. La harata, c'est le regret. Et il semblerait que le Rambam Maïmonide, il appelle la harata, ce regret, tu vois. Pourquoi ? Je vous dis pourquoi. Parce que dans le premier chapitre, à la première halakha des ilchot tshuva, des halakhot de tshuva, dit le Rambam, il dit ceci. Que chez Yashuv, que chez Yaz et Tchouva, lorsque l'homme fera Tchouva, ve Yashuv et Lachem, il reviendra vers Dieu. Chayav le Yidvadot, l'ifne akel baruchu, il est obligé d'avouer sa faute devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit dire ? Il dit Chatati aviti pashati, j'ai fauté, ou meolam eni chozer le davarze, je ne reviendrai plus vers cette chose-là. Si on lit bien le texte, que chez Yas et Tchouva, au moment où il fait Tchouva, Chayav l'idvadot l'ifne akel baruchu, il est obligé d'en parler avec le bon Dieu. Ça veut dire que Tchouva, ça n'est pas un changement de valeur pour l'homme. C'est pas que j'avais telle valeur, maintenant je change de valeur. C'est pas l'homme par rapport à l'homme, c'est l'homme par rapport à Dieu. Chayav l'idvadot l'ifne akel baruchu. Tu es obligé d'en parler au bon Dieu. La Tchouva, ça se fait avec le bon Dieu, ça se fait pas tout seul. Mais là, on m'a dit que Shia, c'est Tshuva. Alors, c'est quoi la Tshuva? Lorsqu'il parle à Kadosh Baruch Hu, il dit, je ne referai plus. Alors, c'est quoi la Tshuva? C'est Mouchan de Rambam que la Tshuva, c'est lorsqu'on regrette. Et lorsqu'on ne veut plus faire ce qu'on a fait. On ne se reconnaît plus dans ce qui a été fait. Ce qu'on appelle en hébreu la charata. Je dis pourquoi c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ce mot de tchouva, il est un peu galvaudé. On appelle tout le monde un bal tchouva. Il a fait tchouva, l'autre fait tchouva. On ne parle que de la tchouva. C'est devenu très médiatisé, la tchouva. C'est surtout très pratique. On veut s'acheter d'autres conduites, alors on fait tchouva. Très bien. Mais on regarde surtout la tchouva dans le changement qui s'est opéré dans la personne, ou dans le changement qui s'est opéré dans ses idées, ou dans le changement qui s'est opéré dans la façon dont il prend au sérieux ses propres valeurs. On appelle ça tchouva. Mais peut-être que ça, c'est pas la tchouva. Ça, c'est la conséquence de la tchouva. Peut-être que la tchouva, c'est ce que le Rambam appelle la harata, c'est de regretter ce qu'on a fait. C'était ça la tchouva. C'est de ne plus se reconnaître du tout dans ce qui a été avant. Et comme ça ne se voit chez personne, c'est difficile d'appeler ça la tchouva. Donc pour nous, on appelle la tchouva ce qui se voit, la nouveauté. Mais peut-être que la tchouva, ce n'est pas du tout la nouveauté. Il y a comme ça beaucoup de commentateurs. Un, c'est le Corveor, Rabbi Yitzhak Blazer. Il dit qu'il est certain que le ikar de la tchouva, c'est la charata. Par exemple, moi j'ai toujours affirmé que quelqu'un qui ne connaissait pas les mitzvot et qui un jour les apprend et les pratique, il ne s'appelle pas un bal tchouva. Pourquoi tu ne connaissais pas? Tu connais très bien. Tu t'appelles un amaharet, c'est maintenant, tu deviens moins amaharet. Tchouva, c'est quelqu'un qui connaissait la loi, qui l'a transgressée, parce qu'il a voulu transgresser, et qui un jour en a assez de cette transgression. C'est ce qu'on appelle un bal tchouva. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de bal tchouva. Alors qu'en vérité, tout le monde devrait bal tchouva. Là, il y a le paradoxe. Le vrai bal tchouva, c'est pas celui qui ne connaissait pas, il fait nouvelle mitzvah qu'il connaît. C'est pas celui qui n'y croyait pas, maintenant il y croit. C'est celui qui y croyait totalement, mais qui n'arrivait pas à mettre ses actes en correspondance avec son divinification par rapport à la Torah. Ce qu'on appelle un moré éther. C'est-à-dire, je fais ceci parce que j'ai pas le choix, un jour ça ira mieux. Ou parce que je suis pas capable, un jour ça ira mieux. Ou parce que je vais faire tchouva. Ou parce que je pense que ça n'a pas de grandes conséquences. Le fait de ne plus rien avoir à faire avec cette attitude-là, ce qu'on appelle en hébreu la charata, le regret, c'est ça ce qu'on nomme la tchouva. Le reste, c'est ce qui va avec. Parce que si tu ne changes pas, ça sert à rien de regretter. C'est pour ça que la Gemara dans le traité de Shabbat dit « Rechaim male charatot ev male charatot » Le racha, le mécréant, il est plein de regrets. Pourquoi? Parce que même la Avera, il a fait des regrets, même au moment où il fait. Mais ce regret-là ne le pousse pas à aller vers l'avant. Ce qu'on appelle le celui qui fait le vidouille, il va, il avoue ses... Mais il continue. Il n'a pas de charata. C'est-à-dire qu'il n'a pas de regrets. Rechaim, ils sont male charatot. Ils sont pleins de regrets tout le temps. Le fait de ne pas avoir de regrets pendant sa vie, mais d'avoir une fois un regret sur quelque chose et d'avoir changé, on appelle ça la tchouva. Alors vous comprenez que c'est une démarche que nous n'arrivons pas bien à concevoir, qui est celle-ci. Puisque je regrette, alors on ne me tient plus compte. D'abord, tous les grands criminels regrettent. On n'a jamais vu qu'on aura évité la prison à cause de leurs regrets. Au contraire, on va dire quoi? Non seulement tu as fauté, en plus tu ne regrettes pas. Le regret, c'est le début de la rédemption. Maintenant, on va faire payer la note. Non. Dirabam Enmaz, Kirimlo, Shum Davar Merich, on n'en parle pas. Alors, si on est honnête, on va dire que c'est la corrélation qui existe entre les premières louchotes et les deuxièmes louchotes. Nous nous basons la morale sur la métaphysique. Nous basons même les rapports entre l'homme et l'homme sur la métaphysique. Alors si métaphysiquement je peux comprendre que quelqu'un a changé, ça ne me dérange pas que dans la réalité, c'est quelque chose que je ne puisse pas concevoir. On pourrait aller même dans le sens des mitzvot comme ça. J'ai fait une mitzvah, je le regrette. On va dire, bon, on t'impose pas la mitzvah. Puisque tu la regrettes, elle n'est plus à toi. Je dis, mais sauf ça, je l'ai faite. C'est une réalité. De même que la réalité n'a de système de valeur que celui qui est fixé par cette métaphysique qui lui donne une réalité, de même cette réalité n'en a plus lorsque dans le système des valeurs qui est spirituel ou qui est métaphysique, les choses n'ont plus de valeur. Tu ne te reconnais pas dans quelque chose, ça n'appartient plus à personne. On a dit une fois le langage qui écrit dans un livre qui s'appelle le Pachad Yitzhak, c'est que la vie, pour exister, elle a besoin d'être sous-tendue par quelque chose. On n'a jamais vu que quelqu'un qui ne fait rien vit. Au minimum, tu es obligé de respirer. Au maximum, il y en a qui pensent qu'ils sont obligés d'être PDG, les autres disent qu'on compte un salaire, qu'il suffit d'un salaire. Mais tu as besoin de quelque chose. Parce que la vie, c'est quelque chose de positif. Il faut la sous-tendre par quelque chose. La mort, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être sous-tendu par quelque chose. La non-vie, la non-valeur, la non-existence, elle n'a besoin d'être sous-tendue par rien. Elle n'est sous-tendue que par ma volonté qu'elle existe. Dès que je suis mis prarète, c'est-à-dire que je ne m'y reconnais plus et que je le regrette, elle n'existe pas vraiment. Tu dis, mais je ne comprends pas, tu as volé un arbre, tu as planté des racines, tu as des fruits, ça existe. Ça n'existe peut-être que dans la valeur que je lui donne. Peut-être qu'à passer, elle n'a pas d'existence. Non, pour ça, il faut y croire. Il faut croire que nous basons le rapport, même Ben Adam Lachavero, même l'un avec l'autre, sur un système qui n'a de vérité que par rapport au spirituel. C'est-à-dire que je peux avoir la santé, la richesse, la beauté, l'intelligence, mais en vérité, je n'ai rien. Et comprendre qu'on n'a rien. Mais je vois. Non, en vérité, c'est rien. Comment on peut dire que c'est rien? Si ça n'est pas sous-tendu par quelque chose qui lui donne une valeur selon le barème qu'a donné la Torah ou selon l'échelle de valeur qu'a donné la Torah, ça n'a pas de valeur, ça n'existe pas. En tout cas, grâce à ce système-là, celui à qui on enlève quelque chose, il ne peut jamais se plaindre. Les gens ont gagné ça. C'est qu'on leur a fait quelque chose qui n'existe pas. Donc il vaut mieux vivre sans illusion qu'avec illusion. En tout cas, la notion de tchouva, c'est qu'à partir du moment où on ne se reconnaît pas dans ses actes, on n'a plus rien à voir avec eux. On ne les assume plus. Ils ne vous appartiennent vraiment plus. Ah, qui a planté l'arbre? C'est le bon Dieu. Tu crois que sans le bon Dieu, tu vas planter les arbres? Il y a le fruit qui pousse. Eh, c'est le bon Dieu. Je dis, mais c'est moi ou c'est pas moi? Non, c'est pas toi. Cette notion ne peut exister que si elle existe dans le sens contraire. Parce qu'au moment où je plante, et que pour moi c'est positif, il faut aussi savoir pourquoi c'est pas le bon Dieu. C'est moi. Donc de nouveau, j'ai besoin de cette échelle de valeur là. Si c'est moi, alors je peux comprendre que c'est moi pourquoi. Pas parce que dans la réalité des faits, c'est moi qui ai mis la graine. Parce que c'est moi qui sous-tends qu'il y a un rapport avec cette chose-là. Mais dans la réalité, que ce soit toi ou un autre, ça n'a pas de valeur. Donc on peut comprendre que celui qui vit avec la conscience que toute chose, c'est le bon Dieu qui l'a créé, que moi je ne fais que disposer d'une création qui est là, je peux aussi rayer les mentions dont je pense qu'elles sont devenues inutiles. Mais de tenir la corde par les deux bouts, je ne peux pas. Je ne peux pas dire ce que j'ai fait, c'est moi. C'est mon mérite. C'est à moi que je le dois. Et au moment de faire tchouva, de dire, je ne me reconnais plus. Parce qu'à qui tu vas le jeter? Si ce que tu as fait, c'est le monde qui l'a fait, Baruch HaShem. Alors je dis, quand je regrette, eh ben, ça appartient toujours au bon Dieu. Mais si ce que j'ai fait, c'est moi, alors quand c'est mal, j'ai personne à qui le jeter. Donc le système de la tchouva qui est de n'être responsable que des choses dont on se reconnaît responsable, ça ne marche que si ça marche de l'autre côté aussi. C'est pour ça que la Gemara dit dans le traité de Shabbat, En la Kadosh Baruch Hu Beolamo et la Otsar Shel Yirat Shamayim Bilvad. Dans notre monde, on sait ce qu'il y a. Il y a la terre, il y a le ciel, il y a les étoiles, il y a les galaxies, il y a tout ce que vous voulez. On connaît notre monde. Mais le monde du bon Dieu, on ne le connaît pas. Viens les Chachamim et disent, dans le monde du bon Dieu, il n'y a que Otsar Yirat Shamayim. Il n'y a que la crainte du ciel que les hommes y ont apportée. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau depuis la création? On va dire, nous, c'est lui qui nous a fait. La terre, c'est lui qui l'a fait. Il a tout fait, lui. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Il n'y a pas eu de nouveau. Il n'y a rien qui puisse se faire sans sa volonté. Alors j'ai dit, c'est très simple. Akol, tout vient. Mina Shamayim. Chutz Mirat Shamayim, à part la crainte, c'est-à-dire à part ce que moi j'y apporte de mon cru. Et c'est quoi? Il n'y a rien de matériel, bon, il n'y a pas besoin de toi pour ça. C'est les choix, dit Rachid. Be Eize Derech Yifra. Irat Shamayim, ça veut dire quel est le chemin que tu vas emprunter. Tout le reste, c'est moi qui fais. Alors je peux comprendre aussi le contraire. Donc dans le monde du monde, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien de neuf. Toi, tu as été fait par lui. Qu'est-ce qui existe dans son quoi de neuf? Ce que toi, tu amènes. Alors si je suis d'accord avec ça, je suis d'accord que lorsque je vais me débarrasser de ce qui appartient de toute façon au monde, parce qu'on va se faire des choix, et bien, je peux juste m'en débarrasser. Donc on ne peut prendre un côté sans prendre l'autre. Sinon, ça ne veut rien dire. Et là intervient de nouveau ce Dieu de la loi ou ce Dieu dur, méchant, dont on nous parle. Pourquoi? C'est que toute la leçon de tchouva, elle ne peut exister que si j'ai une échelle de valeur stricte. Si les choses n'ont pas de valeur, t'as pas besoin de les regretter. Comme souvent on dit, Echad Amamit, Echad Amarbev, Echad Amamit, t'en fais peu, t'en fais bien, ou Bilvat Shechave Livola Shamaim. Le principal, c'est d'être honnête, s'arranger avec le bon Dieu. Si ça veut dire qu'on est tous égaux, et que celui qui essaye plus n'a pas plus de valeur que celui qui essaye moins, donc les choses n'ont pas de valeur, il n'y a pas besoin de tchouva non plus. La notion de tchouva, c'est la notion de charata. Il y a une valeur à ce que j'ai fait. Et dans ces valeurs-là, je ne m'y reconnais pas. Alors je peux les lâcher. Parce qu'à Kolvé des Shamaïm, eh bien, je vais continuer. Mais ça, de nouveau, ça passe par la notion de faute. Par la notion de loi. Sans ça, il n'y a pas de choix possible. Parce que tu vois par rapport à quoi? Donc par rapport à une loi, par rapport à une échelle de valeur. S'il n'y a pas de choix possible. Ça va peut-être même encore un peu plus loin. Parce que la notion de tchouva, on ne peut la comprendre sans ce que le Rambam appelle la notion de boucha. Parce que la harata, le fait de regretter, ça imprime une notion de honte. Vous savez que le mot en hébreu tchouva, la chouf, c'est l'anagramme du mot vosh, boucha. La honte, c'est le décalage qui existe entre ce que je devrais être et ce que je suis, ou ce que les autres pensent que je suis et ce que je suis. La notion de honte, c'est cette notion de décalage. La tchouva, c'est le décalage dans l'inverse. Il ne peut y avoir de tchouva sans boucha. Parce que même que tu ne te reconnais plus, c'est quand même toi qui as fait ça. Donc, on introduit cette notion de boucha. C'est pour ça que le premier mot du vidouille de ce qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, c'est l'okai boshti venichlanti, j'ai honte. Et comme ça, c'est indiqué dans le Rambam. La notion de charata, de regret, va de pair avec les notions de honte. Il n'y a que comme ça qu'on puisse comprendre. Il est écrit dans le Yalkut Shimoni que lorsque le prophète Yechezkel est venu chez les enfants d'Israël au moment de la destruction du premier temple, il leur a demandé pourquoi vous ne faites pas tchouva. Ils ont répondu Boshi Manachno. On a honte. Je crois que c'est bizarre. Si la tchouva, c'est d'arrêter et de commencer une nouvelle vie, parce que tu rentres, tu restes dans le péché, mais c'est bête. Donc on voit encore une fois que la notion de tchouva, c'est j'ai honte de quoi? J'ai honte de parler au bon Dieu de ce que j'ai fait. J'ai honte de cette notion de charata, je ne veux pas commencer. Je veux bien commencer une nouvelle vie, mais je ne veux pas qu'on parle d'avant. Et le Midrash dit ceci. Le premier qui a ouvert dans la notion de tchouva, c'est le prophète Hoshéa, Osée. Lorsqu'il a dit Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Shuva Israël, ça veut dire reviens Israël. Ad Hashem Elokecha, jusqu'à l'éternel ton Dieu. Tous les commentateurs posent la question, c'est pas vrai? D'abord, la tchouva est déjà marquée dans la Torah, puisque le Ramban Nachmani dit que la mitzvah de tchouva est marquée dans le pasouk, dans le verset de Shavta ad Hashem Elokecha, qui est dans la paracha de Nitzavim. Non. C'est pas le prophète Hoshéa. Ensuite, le mot tchouva, on le trouve dans les prophètes antérieurs déjà. La réponse, elle est peut-être là. C'est que les Béné Israël avaient honte. Il y a un Sefer le Corvéor, David Salébaz, il répond, il dit ceci, je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit quelque chose de très intéressant. Il raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Rav Zundel de Salant, qui était en train. Et il allait visiter une communauté. Et des voyous, des juifs, étaient assis avec lui dans le train. Ils se sont moqués d'un vieillard, ils croyaient que c'était un pauvre vieillard. Ils sont fichus de lui pendant tout le trajet. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu la foule qui l'a trié. Ils ont su que c'était lui, Rav Zundel de Salant, ils ne savaient plus comment faire. Alors, lui-même, il a envoyé quelqu'un chez eux. Il a dit, je suis sûr que vous avez honte maintenant de sortir de chez vous. Venez me voir et on s'arrangera. J'ai traité de quelqu'un de grand comme quelqu'un de petit. J'ai honte. Et plus on va me dire qu'il est grand, et plus on va me dire qu'il est compréhensif, ma honte, elle va encore grandir, parce que ma honte, c'est pas par rapport à ce que lui pense, c'est par rapport à ce que j'ai fait. Même si on va dire, il me comprend très bien, tu sais, celui-là, il comprend. Mais je vais encore plus crever, en plus on va dire qu'il est grand. Il est tellement grand qu'il comprend qu'on peut lui faire honte. Mais je vais avoir encore honte. Mais j'oserai jamais l'approcher, celui-là. Plus on te dit que le bon Dieu est grand, et moi tu vas faire tchouva, comment tu vas oser approcher? Et on te dit, la tchouva, il faut s'arranger avec le bon Dieu. L'ifne akel baruch shachou, chayav lit vadot ifne akel baruch, il faut s'adresser à Dieu. Je veux bien lui dire, je recommence toi à zéro, mais je ne peux pas commencer à parler de ça, si vraiment je prends la mesure. Non seulement si je prends la mesure, mais il est possible que si je prends la vraie mesure, je n'envisage même pas la tchouva. Par exemple, si quelqu'un me disait, Hitler a fait tchouva, je dis non, il n'a pas le droit. Il y a des limites à tout. Il y a des gens qui doivent crever d'abord de la tchouva. Parce que s'il veut vraiment faire tchouva, c'est qu'il ne doit plus pouvoir se voir dans la glace. Comment est-ce qu'il va faire? Il y en a un qui s'appelait Rabbi Eliezer Ben Dourdaya. Il avait fait tellement d'avirot qu'il en est mort de pleurs. Ça veut dire que la tchouva, elle n'est pas possible pour tout le monde. Il y a des choses dont on ne pense pas, qu'il est impossible même qu'on imagine que l'on vive après regretter ça. Parce que la faute, elle reste. Elle est là devant toi. Et tu peux dire, tu la jettes sur le bon Dieu. Mais toi, tu dois plus pouvoir supporter. Les grands bas, les tchouva, ne peuvent pas vivre avec la tchouva. Comprenez? Donc on n'imagine pas une tchouva pareille, ça n'existe pas. Celui qui prend vraiment la mesure de ce qu'il a fait, il ne doit pas pouvoir s'adresser au bon Dieu. Le premier qui a dit, bon, vous avez honte de vous adresser au bon Dieu, c'est le bon Dieu qui s'adresse à vous. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Vous avez honte de venir. Moi, je vous dis de venir, on va s'arranger. Sans cet appel-là, le peuple d'Israël ne peut pas faire de choix. C'est-à-dire que si je mesure vraiment, il y a un jour une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, comment on peut faire tchouva sur un avortement? Je lui ai dit, je ne sais pas. D'abord, je n'ai pas l'habitude. En plus, c'est une chose qui aujourd'hui est devenue très facile. C'est question d'aspirateur. Mais si on y réfléchit, on a touché à un monde qui n'est pas à soi. C'est pas parce qu'on porte un enfant, c'est même pas parce qu'on l'éduque, qu'on a droit de vie ou de mort sur lui. On est même à état de mout. On a enlevé encore une image de Dieu. Alors on a dit, mais... Alors comment il faut faire? Je ne sais pas. Il faut réfléchir. Stan de dire oui, ratati pachati. Il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je suis celle, elle est pas loin. Ça m'a pleuré tellement, elle dit, vous savez pourquoi? Parce que je l'ai fait 5 fois. Alors je vais montrer la Gemara dans Vodazara, la Gemara dans Vodazara, elle dit, celui qui est avik bechet, celui qui a répété la avera souvent, il n'y a pas de tchouva. C'est pas un truc. On ne peut pas changer la nature. Il n'y a pas de tchouva. Une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois ça va. 5 fois. Maintenant, on va dire que c'est possible. Mais le prix à payer, on ne connaît pas. Parce que ne plus se reconnaître, ça veut dire que peut-être on n'arrive même plus à vivre avec ça. Et c'est pas évident. C'est ça l'histoire de Rabbi Eliezer Ben Dourdaya. Que la Gemara a dit, il s'est assis, il a dit, Shamaim bikshu rachamim, que les cieux demandent pitié pour moi. Les cieux, disent les commentaires, ça veut dire, j'ai pas eu accès à tout l'enseignement qu'il aurait fallu, et c'est peut-être à cause de ça. Il a vu qu'il ne s'est rien passé. Donc c'était pas à cause de ça. Il a dit arrête, que ce soit la terre qui me demande. Ça veut dire quoi? Les possibilités, elles sont tellement grandes que peut-être que c'est normal ce que j'ai fait. Non. Il n'a pas senti que c'était ça. Jusque Gab Ibria, il en est tellement assez qu'il est mort. Batkol, il y a une voix céleste qui est venue qui a dit Rabbi Eliezer ben Dourdaya mezuman achayolam abba. Dans le monde futur, tu peux vivre, mais dans ce monde sinon. Tout n'est pas possible. Il t'a de faire du joie, non, c'est pas possible. Parce que rien que le masque, de le voir encore, ça empêche la joie. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ma histoire à Vodazara, celui qui est commun à Vodazara, qui est mine à Vodazara. Un pape. Imaginez-vous un pape, il fait du joie. Il est obligé de trouver une île déserte pour vivre. Pas possible. Il en a fait trop. Tu peux pas être des deux côtés du magazine. C'est pas possible. Il y a des gens dont on pourrait penser que la tchouva est possible, mais pas dans cette vie. Parce que la harata, le regret est tellement grand, le changement doit être tellement grand, et c'est tellement loin qu'on ne peut pas vivre avec ce qu'on a fait. Et ça, on le comprend très bien. C'est ça que la Gemara raconte l'histoire de Yaakov Mishtzorot. Ce Yaakov Mishtzorot, lorsqu'il a vu comment les Romains traitaient les Chachamim, il s'est fait, lui, les quatre morts prévues par le Bédine. Il se les a fait tout seul. Tout le monde pose la question, on n'a pas le droit de se suicider. C'est interdit. La réponse, elle est, on n'a pas le droit de se suicider quand on a peur de la vie. Mais lorsque la vie est impossible, on peut jeter la mort à personne. C'est pour ça que Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit Kvar Kidmanin Zel Gan Eden. Et celui-là, il est déjà largement avant moi au Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ta vie n'était pas possible. Parce que le changement est trop fort. La façon qu'on a, nous, de réaliser la matérialité des choses fait qu'on ne peut pas tout changer, changer n'importe quoi, n'importe quand. Bon, il y a des extrémités dont on pourrait penser que c'est pas possible. Celui-là, il ne peut pas vivre. C'est comme Pharaon. Il y en a qui disent qu'il a fait tchouva, il y en a qui disent qu'il n'a pas fait tchouva. Mais d'après ceux qui disent qu'il a fait tchouva, pourquoi l'engloutir dans la mer? Parce que quelqu'un qui a mis 180 000 enfants juifs dans des murailles à la place des briques, c'est pas possible, c'est impossible. C'est comme on dirait Pol Pot. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ça, c'est la dimension vraie de la tchouva. C'est-à-dire que la harata, le regret, la honte, le fait d'être tellement loin de celui qui a fait et qui est pourtant moi quand même, c'est ça qui donne la dimension à la tchouva. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que cette notion de faute qui était péjorative jusque-là, ça devient une notion qui est une notion qui est génératrice de boucha, qui est génératrice d'éloignement entre soi-même et ce qu'on est, et ce qu'on fait. Et ça, c'est une notion qui existe peu aujourd'hui. C'est ça que j'ai dit qu'il est possible que la tchouva, elle existe peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus honte de rien. On sait toujours les causes. Ça, c'est à cause de ci, ça, c'est à cause de ça, ça, c'est comme... Mais on n'est pas faible, on est très fort, on est bon, on est meilleur, mais ce qu'on recule sur le fait de se voir... Selon une échelle des valeurs. Les autres, on arrive. Mais soi, on n'arrive pas. Donc on s'invente un Dieu d'amour, un Dieu compréhensif, pour qu'on puisse vivre, pour ne pas avoir affaire avec cette notion de tchouva, d'exigence. Mais ça, c'est le message de certains pour passer sous la porte des incroyants. On n'est pas obligé d'avoir affaire avec ça. On peut comprendre qu'il y a une notion de harata, de boucha, qui est que, pas par rapport à l'autre, pas par rapport au bon Dieu, le bon Dieu sait qu'il me comprend. Comme celui que j'ai offensé, il est tellement plus grand que moi que je sais qu'il me comprend. Mais plus je vais voir qui c'est, et plus il est grand, et plus j'ai honte de ce que j'ai fait. Plus je me rends compte dans quel sens ça allait. À moins que je pense que le monde est fait de petites choses, et que rien n'a de l'importance. De nouveau, on retombe dans un problème. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de choix non plus. Si vraiment c'est pas si grave, il n'y a pas d'importance, tu casse pas la tête, c'est pas la peine d'avoir tellement honte, de faire tellement de choix, parce que rien n'a d'importance. Donc c'est que c'est l'importance. On recommence déjà, on recommence à la chose du péché, notre choix. C'était de ça qui a marqué. Hachi afuach hayom. Le clan d'Israël a tout, mais il doit savoir qu'il y a un jour où on se mesure avec cette notion et yafuach hayom venasuat slavim. Les ombres passent. Et maintenant, on est obligé de rechercher la présence divine dans les lieux où, qui lui sont consacrés. Et on est obligé de la sortir et de le mettre dans la vie telle qu'elle a été au moment du Mont Sinaï. C'est comme ça qu'on comprend la dernière interprétation du Midrash. Le Midrash dit ce qui a marqué Kulach Yafara Yatiobu Menbach. Le Midrash dit que Rabbi Yochanan a appliqué ce verset au Mont Sinaï. Au moment où Dieu a donné la Torah, il n'y avait pas de malade, il n'y avait plus d'éclopé, il n'y avait pas d'aveugle, il n'y avait pas de sourd, il n'y avait pas. Parce que tout ça, ce sont des notions d'handicap. La notion d'handicap ne se comprend que par rapport à l'épreuve. Le jour du Matan Torah, c'est pas encore le jour le jour où va venir l'épreuve. Donc ce jour-là, il n'y a aucune nécessité d'une quelconque difficulté ou d'un quelconque handicap. Parce que ça, ce ne sont que des références au passé ou à l'avenir. Le jour du Matan Torah, il n'y a pas d'avenir ni de passé. On ne sait pas le monde de l'épreuve. C'est le monde de l'étude. Dans le monde d'étude, on doit ou on devrait comprendre, ou ça devrait être, qu'il n'y a pas de gens moins bien placés que d'autres, et d'autres mieux placés. Il n'y a pas d'éclopé. On comprend que dans le monde spirituel, il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire qu'il a eu moins de chance que les autres et qu'il est éclopé par rapport aux autres. Donc le jour du Matan Torah, il n'y a effectivement pas d'éclopé. Il n'y a personne à qui manque quelque chose. Parce que c'est une notion qui est la notion du handicap. La notion de handicap, elle est obligée d'être liée à une notion d'épreuve. Quand tu es au moment du Matan Torah, non? C'est pour ça que le verset dit Kulach Yafara et Yomu Menbach. Au fond, spirituellement, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on serait très choqué d'avoir comme idée que spirituellement, la valeur des gens est même peut-être un rapport avec l'intelligence. Alors nous, on comprend, surtout après le chassidisme, que quelqu'un de pas très intelligent peut être plus proche de Dieu que quelqu'un de très intelligent. C'est-à-dire que ça ne passe pas par les obligations de la matérialité dont on a l'habitude. C'est l'histoire de celui qui vient à Rosh Hashanah, que le Baal Shem Tov racontait, de quelqu'un qui avait laissé ses brebis dehors, il est rentré dans la choule, il a entendu qu'on sonnait le chauffard, il a pris son sifflet, il a sifflé. Alors le Baal Shem Tov a dit, cette prière, elle est montée plus haut que toutes. J'espère qu'il avait raison. Si c'est vrai, ça veut dire que même des notions qui sont des notions d'intelligence, parce qu'il faut être vraiment crétin pour siffler, et de penser que ça a une signification. Mais celui qu'il est, il est. Il n'y a pas de raison que spirituellement, il soit plus crétin que les autres. Parce qu'on est proche, ou on est loin du bon Dieu. Et même celui qui n'est pas très intelligent, qui croit que son sifflet, c'est ce qu'il y a de mieux pour louer l'Éternel, il en reste qu'il était proche de Dieu plus que moi. Donc on peut aller jusqu'à ces notions-là. Tellement dans le spirituel, il ne peut pas avoir de moum, il ne peut pas avoir de défaut. Le seul défaut étant, ou loin, ou proche de ce que Dieu a demandé à l'homme. Et ça, ça peut ne pas passer toujours par un quotient intellectuel plus élevé ou moins élevé. Bien que ce soit quand même difficile à comprendre. Parce qu'il y a quand même certaines nécessités. Comme il y a sûrement des questions.
Vous avez parlé de loi et vous avez, tout à l'heure, vous avez parlé de valeur, comme si c'était associé à. Moi, j'ai un peu de valeur. En fait, c'est vrai que ne pas voler, ne pas tuer. Et quand on lit la Torah, on voit aussi que. Dans les conditions idéales, il ramasse un morceau de bois le Shabbat, il faut aller le lapider. Bon, à Malek, il faut tuer tout le monde. Bon, s'il fallait faire ça, je ne sais pas si je saurais le faire. je ne sais pas, le vivre en termes de valeur. Alors, est-ce que j'ai rien enfin, je veux dire, ça veut dire que les mitzvot, comme ne pas voler et tout ça, je l'ai du mal, parce que finalement, c'est peut-être parce qu'elles me plaisent.
C'est possible. Je vais vous dire. Il faut savoir que les mitzvot auxquelles on n'est pas confronté, ça veut dire qu'elles n'ont pas de rapport avec nous. La mitzvah d'Amalek, c'est une mitzvah théorique, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les 3100, quelques 9 ans d'existence du peuple juif, on n'est jamais arrivé aux conditions de la mitzvah d'Amalek. C'est ça que Rambam dit, que le din de Mechiat Amalek, c'est un problème du Mashiach, c'est pas un problème de notre temps. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir conquis tout le pays d'Israël, il faut avoir un roi. Les conditions n'ont jamais été requises. Donc, si ça n'a jamais été requis, ça veut dire que le peuple juif n'a peut-être jamais eu les capacités, ou le pouvoir, ou le droit, de brandir la mitzvah de la Torah et de s'adresser à Amalek. Ça, c'est une des choses qui a créé notre monde, qui fait que on n'envisage aucune autorité morale pour celui qui se conduit bien, et on n'envisage aucune punition morale pour celui qui se conduit mal. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre aujourd'hui une notion qui est absurde halakhiquement, c'est que la halakha précise, quelqu'un qui dit « Fais-moi un ézek, tape-moi ». Tape-moi dessus, coupe-moi un bras. On n'a pas le droit de lui faire. Pourquoi ? Parce que il ne peut pas être mochel sur une chose qui ne lui appartient pas entièrement. Mais bientôt au Parlement, on aura une loi où celui qui vous dit tue-moi, on aura le droit de le tuer. Vous comprenez ? Ça, c'est totalement opposé à notre idée de la Torah. Seulement ça va dans le sens où on ne peut pas comprendre l'idée d'Amalek. La preuve, j'aurai à côté de moi plein de gens qui ont tué plein de monde. Il y a 20 ans, ils écopaient pour 15 ou 20 ans de prison. Et le monde les regardait avec une horreur glacée. Et on parlait dans les journaux pour savoir s'il n'y avait pas des molécules à leur donner pour qu'ils arrêtent d'être des assassins. Et bientôt on me dira, mais pourquoi tu les invites pas le vendredi soir chez toi ? Ça veut dire que l'adaptation qu'on a à cette formule de loi qui est chacun fait ce qu'il veut, n'a pas à juger. Et il y a des choses qui peuvent te sembler des crimes, mais tu ne peux pas juger l'autre. Ça fait qu'on est totalement inadapté au problème d'Amalek. On est d'accord. Donc on peut comprendre pourquoi la loi n'a jamais pu s'appliquer d'après la Torah. On ne vit pas dans un monde où on est adapté à ce genre de choses. Pire que ça. On ne vit même pas dans un monde où si vous prenez un copain et vous construisez une ville en face de lui et vous ne voulez pas que le Shabbat, quelqu'un, il vous mette sa voiture au milieu parce que ce n'est pas votre opinion, on vous dit que même ça, vous n'avez pas le droit d'imposer. On est d'accord. Donc vous voulez parler d'Amalek. Comprenez. C'est-à-dire qu'en théorie, pendant que je fais l'office de Rosh Hashanah, mon voisin il va mettre sa voiture devant la choule, il est en train de la savonner avec la radio à tue-tête, et je dois pouvoir penser qu'on est égaux. Alors on ne peut plus parler maintenant d'Amalek et de machin. Ça n'a pas de sens. Donc qu'on ne soit pas capable de ce genre de choses, c'est normal. Déjà, on a des difficultés à lutter avec ce Dieu d'amour qui pardonne tout, qui n'a pas de valeur, qui vous permet d'embrasser des assassins, et le lendemain de dire que vous faites la paix, c'est des choses qui n'ont plus de sens, vous comprenez ? Alors, nous, on est là pour essayer de leur donner un petit peu de sens. Mais l'attaque, elle est facile. On dit, comment encore tu veux donner la faute et le péché, le machin, non, non. Ça ne regarde pas. Ça ne me regarde pas. Heureusement, il y a encore des notions qui sont claires pour tout le monde. Mais ce n'est pas sûr que dans 50 ans, elles sont claires. Peut-être un jour on va vous réviser l'histoire au point qu'on va vous dire que il y en a déjà qui le disent. Rabbi, Hitler, oh là là, c'est pas une grande différence. Comprenez, tout est une question d'appréciation. La volonté de l'homme est tellement forte qu'il peut assimiler avec une bonne volonté, il peut assimiler l'absurde. On peut. Tout est une question de volonté. Si j'ai décidé de penser que, ou ça me fait plaisir de penser que telle est ma volonté, je peux penser que, voilà, Rabbi Négal Hitler. Vous voyez sur des panneaux derrière Rabbi Négal Hitler. Vous dites c'est ridicule. Et on vous dit, lorsque un médecin juif ne veut pas faire ceci ou cela, on dit, monsieur, vous êtes ridicule. Vous comprenez? Donc, selon la manière dont on se situe, selon cette manière, on évalue les choses. Nous ne sommes pas la terre Amalek. Je dis pire que ça. Si quelqu'un, il vous demande pourquoi aujourd'hui on ne construit pas le temple, peut-être on va se mettre des négociations avec les Arabes, on va commencer. C'est vrai que ça les gêne énormément, mais c'est avec l'argent d'arriver. En se cotisant, on va essayer de reconstruire le temple. Il n'y a personne qui en parle, personne n'en a envie. Pourquoi? Parce qu'on aurait faim dans le temple. Prends les animaux, la shrita, nous on aime les congelés propres, tout ça. On n'aime pas ça, on ne sait pas vivre comme ça. Une bête, ça nous rebute. C'est bon que lorsque c'est en steak. Sinon c'est sale, c'est pas hygiénique. C'est fou. Ça veut dire qu'on est loin de ce genre de mitzvot de la Torah. À partir du moment où on est loin, eh bien, ça ne s'applique plus. C'est ça qu'aujourd'hui, celui qui voudrait reconstruire le Tamidash, ça ne fait pas partie, puisque il est écrit dans le prophète Yeheskel, Velo Ariach et Reach Nichochachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus de sacrifice jusqu'à la venue du Mashiach. Pourquoi c'est comme ça? Parce que on est devenu comme ça nous aussi. On a un autre judaïsme, il faut le savoir. Alors on peut essayer de remettre les pendules à l'heure, mais entièrement à l'heure, on n'est jamais. Absolument. Moi j'ai parlé de certaines mitzvot, j'ai pas parlé de toutes. Vous comprenez quand même des choses élémentaires. Attention, moi j'ai parlé de certaines mitzvot. C'est un monsieur venu, il disait, c'est vrai, on vole pas, pourquoi? Parce qu'on est d'accord avec l'idée. Mais finalement, on n'adhère pas du tout. La preuve, c'est qu'à Malek, on... Non, c'est pas une preuve. Quelqu'un peut être dégoûté par le vol et peut être tout à fait en symbiose totale avec ce que la Torah demande. Alors qu'il y a des choses où on n'est pas capable. Mais il y a quand même des mitzvot, on est capable, évidemment. Il y a des choses qu'on est capable de faire, des choses qu'on n'est pas capable de faire. Non seulement ça, mais normalement on devrait mesurer, nous, les choses par rapport à ce qu'on étudie dans la Torah et pas par rapport aux médias ou par rapport au consensus ou ce qu'on appelle la démocratie ou le public ou tout ce que vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on trouve normal, on va pas dire trouver normal, on va aller encore mieux. Tout PDG d'une grosse affaire qui n'a pas eu des ennuis avec la justice, c'est qu'il n'est pas entreprenant. C'est un fonctionnaire, c'est un... On va pas dire que c'est du cavode, mais... Pourquoi? Parce que chacun se fait une certaine idée de la justice. Il y a certains privilèges. Il comprend bien que lorsque on a de très grosses responsabilités, on ne s'encombre pas de lois qui sont le lot de tout un chacun. C'est-à-dire, pourquoi le PDG, qui a la responsabilité de je ne sais pas combien de personnes, il soit aussi obligé d'être petit que le petit employé qui gagne 6 000 francs par mois? Les lois pour les uns, ce n'est pas les lois pour les autres. On comprend ça, non ?